Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Merci Timour. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance, d'une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot, pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse. La façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient, la façon d'être travaillé par l'inconscient. Lors de la dernière émission, je vous ai parlé de la croyance et de l'illusion. Face au désespoir de la perte et de la disparition, certaines personnes se mettaient à croire en des images, en des photographies qui prétendaient fixer l'image du disparu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la violence. De la violence dans le couple, de ce que l'on appelle la violence conjugale ou la violence de genre. Des films, anciens ou récents, donnent à voir cette réalité difficile. Je pense à « Il reste demain », le film italien de Paola Cortellesi, ou encore « Anatomie d'une chute » de Justine Triet. On pense à des films plus anciens, comme « Un tramway nommé Désir » de Elia Kazan, où l'on voit Marlon Brando tenir violemment le bras de Vivienne Leigh, qui joue Blanche Dubois. On pense au film de Louise Buñuel, « Lui », et sa mise en scène d'une jalousie d'un homme au bord du délire, ou encore au film « L'enfer » de Chabrol. La littérature n'est pas en reste, avec les livres d'Annie Arnaud, « La honte » par exemple, ou encore le théâtre et ce que l'on appelait les drames de la jalousie, comme le fameux « Othello » de Shakespeare.
« Pour moi, être dans le doute, c'est être résolu. Mon parti est pris. Adieu à la fois l'amour et la jalousie. »
Une patiente me parle de la colère de son compagnon, un autre de la jalousie de son mari. Une jeune femme dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est restée si longtemps avec cet homme qui la méprisait, dit-elle. Elle ne pouvait pas partir et elle se demande pourquoi. Il est difficile, parfois, pour un certain nombre de patientes et de patients, d'aborder la question de la violence dans leur relation. Une honte, une banalisation, des silences, tout cela entoure souvent des situations dont il est difficile de parler. Pourquoi cette violence se produit-elle dans un lien que l'on souhaite construire sur l'amour ? Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur les violences dans le couple, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible dans l'application Radio France et sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Laurie Lefebvre, sur France Inter.
Du point de vue de la psychanalyse, s'interroger sur la violence revient à remettre en perspective la question de la pulsion de mort. La pulsion de mort, Freud l'a définie dans son texte « Pourquoi la guerre ?». Dans ce texte écrit en 1933, il s'intéresse au paradoxe d'une destructivité où le sujet se sauve en détruisant l'autre. Se croise la question de la destructivité et de la cruauté, ainsi que la question de la répétition. Une femme me dit « Je me cogne toujours au même mur quand je rencontre un homme. Je tombe toujours sur des hommes violents. » Un homme arrive à sa séance en larmes. Il est en colère contre lui. Il a encore été violent envers sa femme, qui est partie cette fois, dit-il. Il y a quelques années encore, on parlait de femme battue. Cette expression n'est plus utilisée. Les personnes sont des victimes de violences conjugales. C'est une expression intéressante car elle met en lumière la notion de lien, de ce qui conjugue une personne à une autre personne. Les violences conjugales procèdent autant d'un drame subjectif, personnel, que d'une problématique collective. Se trouve noué l'intime du sujet à des enjeux sociétaux et politiques. Les violences conjugales brouillent les frontières entre l'individuel et le collectif, entre ce que l'on appelle le privé et le public. Une patiente me dit qu'elle ne veut pas se sentir victime et qu'elle prend sur elle et se défend, dit-elle. Surtout lorsque son mari l'insulte et la jette à terre, comme elle dit. Et elle ajoute en séance qu'elle le menace aussi. Puis elle se met à pleurer. La dernière fois, la dispute était si violente que je ne pouvais plus rien penser. Je voulais juste disparaître, dit-elle. Je ne voulais plus avoir de corps. Une autre patiente me dit « Je viens vous voir parce qu'un jour une amie m'a dit que ce que je vivais n'était pas normal et que je devrais en parler avec quelqu'un. Je lui demande ce qu'elle ne trouve pas normal et elle répond que je me taise, que je ne sais pas quoi dire de tout cela et que j'ai peur. » En 1932, un échange épistolaire se noue entre Sigmund Freud et Albert Einstein sur le thème de la guerre. Je l'ai dit, cet échange sera publié sous le titre « Pourquoi la guerre ?». À cette question, Albert Einstein écrit à Freud, je le cite, « L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. Là est le point sur lequel seul le grand connaisseur des instincts humains peut apporter la lumière. » Freud répond alors à Albert Einstein. Et il lui répond que les pulsions érotiques et les pulsions de mort ne peuvent être abordées séparément car elles sont intriquées. Je cite Freud. Ces pulsions sont tout aussi indispensables l'une que l'autre. C'est de leur action conjuguée ou antagoniste que découlent les phénomènes de la vie. Or, il semble qu'il n'arrive guère qu'un instinct de l'une des deux catégories puisse s'affirmer isolément. Il est toujours lié, selon notre expression, à une certaine quantité de l'autre catégorie qui modifie son but ou, suivant les cas, lui en permet seul l'accomplissement. Ainsi, par exemple, dit Freud, l'instinct de conservation est certainement de nature érotique. Mais c'est précisément ce même instinct qui doit pouvoir recourir à l'agression s'il veut faire triompher ses intentions. De même, l'instinct d'amour, rapporté à des objets, a besoin d'un dosage d'instinct de possession s'il veut en définitive entrer en possession de son objet. En somme, ce que Freud dit là, et je le cite encore, « Nous en sommes arrivés à concevoir que cette pulsion, la pulsion de mort, agit au sein de tout être vivant et qu'elle tend à le vouer à la ruine. L'être animé protège, pour ainsi dire, sa propre existence en détruisant l'élément étranger. »
Tu me défies, c'est ça ?
Toi, tu me défies, qu'est-ce qu'il y a ?
C'est ça, tu as
des leçons à donner ?
Tony, ça suffit ! Il va s'en aller, allez, c'est bon ! Reste là.
Les violences conjugales ont la particularité de s'inscrire au sein d'un dispositif qu'est le couple, où préside un choix amoureux et consenti. Je ne parlerai pas ici de ce qu'on appelle les mariages forcés. Dans son livre « Fausse route », la philosophe Elisabeth Badinter pose cette question. Je la cite. « Alors que chaque pays européen admet le divorce, pourquoi tant de femmes, objets de seule pression psychologique, n'y ont-elles pas recours ? Pourquoi ne font-elles pas tout simplement leur valise ? Eh bien, précisément parce que ce n'est pas si simple, la situation est prise dans des problématiques multiples, sociales et personnelles. Alors, quel rôle peut jouer l'analyse dans ce contexte ? Freud écrit dans son texte sur l'analyse profane, je le cite, « Je voudrais encore vous montrer par un exemple combien il est étranger à la technique analytique de vouloir détourner et dissuader. » Si notre patient souffre d'un sentiment de culpabilité, comme s'il avait commis un crime grave, nous ne lui conseillons pas de laisser là sa conscience torturée en invoquant son indubitable innocence. Cela, il l'a déjà cherché en vain à le faire lui-même. Au contraire, dit Freud, nous l'avertissons qu'une sensation si forte et si tenace doit nécessairement se fonder sur quelque chose de réel qui pourra peut-être se découvrir. Ainsi, si une femme ou un homme vient dire la souffrance qu'elle ressent au sein de son couple, ou qu'il ressent au sein de son couple, le travail de l'analyste n'est pas de donner un conseil, de le dissuader ou de le convaincre de quoi que ce soit. Il s'agit d'offrir les conditions dans lesquelles la personne pourra penser cette notion de couple et ce qu'elle charrie comme fantasme, comme illusion et comme attente, et parfois comme idéalisation. Je l'ai dit, les violences conjugales sont un phénomène complexe qui articule à la fois une dimension sociale, une dimension politique, juridique, mais aussi psychanalytique. Il y a des situations matérielles qui enferment certaines personnes dans des impossibilités. Même dans le contexte de l'analyse, il s'agit d'entendre les problématiques sociales et matérielles. La psychanalyse n'est pas en dehors de la réalité qui met des personnes devant des décisions impossibles. Mais il peut y avoir une dimension inconsciente dans ces impossibilités. S'interroger sur les violences conjugales, c'est tenter de penser les impasses et les ressources du couple et de la famille, en tant que dispositif dit intime, mais aussi social et politique. Penser les impasses de l'amour avec ses normes idéales, avec les projections imaginaires sur le couple et la famille, ses illusions déçues et ses passions tristes, mais aussi ses ressorts et les potentialités de ses passions joyeuses. Il y a des liens qui tissent, qui construisent, et il y a des liens qui étranglent, qui détruisent. Il y a bien sûr aussi des personnes violentes qui se débattent contre leur destructivité et qui agressent leur conjoint physiquement et psychologiquement. Ce dont je parle ici est la question du cadre de cette violence. Pourquoi, dans ce cadre, accepte-t-on, un temps du moins, ce que l'on ne tolérerait pas une seconde d'une personne extérieure à ce lien ? Lorsqu'on se met à penser et élaborer, c'est-à-dire à parler subjectivement des vulnérabilités de chacun au sein des violences conjugales, cela peut permettre d'ouvrir des possibilités de transformation. La parole peut faire émerger les ressorts d'une puissance d'agir des personnes qui souffrent de ces liens morbides et destructeurs. Il s'agit en effet de faire cesser une répétition mortifère. Jean-Paul Sartre développe cette pensée lorsqu'il écrit sur Jean Genet. Je trouve cette phrase très utile et très intéressante. Je cite Sartre. « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que moi-même, je fais de ce qu'on a fait de moi. » La seule différence que peut apporter la psychanalyse pour la compréhension de cette phrase, c'est que précisément, le « moi » n'est pas maître en la demeure, selon l'expression de Freud. Il y a un inconscient. Vouloir quitter une situation toxique pour le « moi » ne présume pas des possibilités qu'il a de le faire. Ensuite, il s'agit de tenter de comprendre l'acte qui persiste dans l'impasse de la violence. Il s'agit aussi de penser ce qui permettrait d'endiguer la répétition de l'acte. Freud écrit dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation », je le cite, « La question du sort de l'espèce me semble se poser ainsi. Le progrès de la civilisation saura-t-il, et dans quelle mesure, dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agression et d'autodestruction. Un patient me dit qu'il ne cesse de répéter une même situation insupportable pour lui dans son couple. Insupportable pour sa compagne et insupportable pour lui. La compulsion à répéter est une notion très importante chez Freud. Elle peut se formuler par l'expression « c'est plus fort que moi ». On peut entendre, dans une petite fable, la fable de la grenouille et du scorpion, une illustration de l'insistance de la pulsion de mort à répéter une destructivité. Je vous raconte cette petite fable. Un scorpion qui voulait traverser une rivière au courant très fort s'adresse à une grenouille pour qu'elle l'aide à traverser parce qu'il ne sait pas nager. La grenouille lui répond « Il n'en est pas question, je te connais, tu es scorpion et tu piques. Et je sais que si je te laisse monter sur mon dos, tu me piqueras pour me tuer. » Le scorpion, en riant, lui dit « Mais alors je vais mourir noyé aussi si je te pique. » La grenouille cède à cet argument particulièrement rationnel et raisonnable. Mais alors qu'ils sont à la moitié du parcours, le scorpion la pique en lui injectant son venin mortel. « Mais qu'as-tu fait, malheureux ? » s'écrie la grenouille. « Maintenant tu vas mourir, toi aussi. » « Je n'y peux rien, » dit le scorpion. « C'est ma nature. C'est malgré moi. » On l'entend, dans cette fable, malgré ses arguments rationnels et en dépit de ce qu'il sait des conséquences de son acte, le scorpion ne peut faire autrement que de répéter ce qui le détruira, lui et les autres. Il y a dans l'insistance de la pulsion de mort à se répéter un malgré soi, qui devient source de jouissance, une jouissance sans bord, sans limite, une jouissance qui est aussi une souffrance. Freud, toujours dans l'ouvrage « Malaise dans la civilisation », pose cette question à laquelle il ne répond pas. Qui peut prévoir l'issue du combat entre Eros et Thanatos, entre la pulsion de vie et la pulsion de mort?
Attends, fais voir un peu, toi. Mais c'est pas vrai.
Quoi?
T'es jaloux.
Jaloux, oui.
Oui, jaloux.
Oui, c'est ça, oui.
Oh, mais moi, ça me plaît, tu sais, que tu sois jaloux, parce que ça prouve que tu tiens à moi.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Oui, qui peut prévoir l'issue du combat entre la pulsion de vie et la pulsion de mort?
Mais tu dirais, il peut...
Alors?
Du Hamel? Mais tu fous vraiment tous, toi, hein? Les employés?
Aïe! Non.
Selon Freud, la violence sociale est la plus dévastatrice pour la vie psychique. En 1920, il émet l'hypothèse d'une articulation entre la pulsion de mort et la compulsion de répétition. Avant cette date, pour Freud, la répétition avait pour fonction de réguler, voire de diminuer le traumatisme. Mais Freud est amené à constater qu'elle ne parvient pas à remplir cette mission. La répétition doit sans cesse être reconduite. La répétition est souvent un phénomène d'emprise, la production d'un lien paradoxal par lequel un sujet en détruit un autre pour le conserver. C'est dans son livre « Totem et tabou », datant de 1912, que Freud avance l'idée que l'essence même de la famille est d'être un meurtre. Lorsqu'il développe cette hypothèse, il considère davantage la haine et la violence des enfants envers leurs parents, c'est-à-dire le mythe œdipien des vœux incestueux et meurtriers, que celle qui advient dans le couple lui-même. Et il considère davantage les violences psychiques que physiques. Mais que peut expliquer la violence physique et psychique faite au conjoint dans le dispositif contemporain du couple? Quel amour, quelle haine, quelle motion pulsionnelle peuvent justifier un passage à l'acte violent sur le corps de l'autre? Comment comprendre l'agression sexuelle, les coups entamant l'intégrité physique, les insultes, l'humiliation au sein d'un couple? Une patiente me dit « Je me sens nulle, je ne suis rien ». Et elle culpabilise, elle n'a plus de pensée ni de corps, dit-elle, devant la violence subie. Elle ajoute « Tous mes amis me donnent des conseils. On me dit de partir, de faire ceci, de faire cela, mais je ne peux pas. Et je m'en veux. Je me sens humiliée face à moi-même. Je n'ai plus d'image de moi. » Chaque cas est bien sûr un cas singulier. Et il y a une psychopathologie différentielle qu'il s'agit de comprendre dans la singularité de chaque cas, dans des contextes variés. Chercher à comprendre les multiples causalités sur les raisons et les déraisons d'un acte de violence peut momentanément avoir des effets d'apaisement sur l'angoisse que suscite l'horreur de la situation. Comprendre, donner un sens sur les causes de la violence, peut apaiser l'angoisse de l'analyste lui-même, peut apaiser l'angoisse des victimes et des auteurs de violence eux-mêmes, parfois. Donner un sens à un acte insensé intègre cet acte dans un récit dont la vertu imaginaire fait écran à un réel dont on ne peut parler. Dans cette logique, nombre de récits de violence conjugale s'accordent à interpréter le déchaînement de la violence chez la personne qui agresse comme un acte de défense interne contre l'angoisse de perdre l'autre et le pouvoir qu'on a sur lui. Cette violence devient une nécessité paradoxale pour conserver un équilibre social et un équilibre interne à la famille.
You have no pity.
Yes, and you have way too much for yourself.
I can't stand anymore.
Détruire l'autre pour le conserver. Détruire pour ne pas perdre. Il s'agit donc de détruire l'objet d'amour pour ne pas avoir à le perdre. C'est complexe en effet, et apparemment paradoxal, j'en conviens. Freud définit la pulsion d'emprise ainsi. Il s'agit de contrôler et maîtriser l'autre pour échapper à son emprise. Sortir de l'emprise supposée de l'autre en contrôlant soi-même. La pulsion d'emprise est une pulsion de maîtrise sur l'autre et sur le monde, une violence contre la réalité et ce qui entoure le sujet. cette notion serait à l'origine de la cruauté infantile, dit Freud. Chez l'enfant, la pulsion d'emprise n'a pas pour but la souffrance d'autrui. L'enfant n'en tient tout simplement pas compte. Plus tard, en introduisant la notion de pulsion de mort, Freud fait entendre que la pulsion d'emprise est plus proche d'une pulsion de destructivité. Il s'agit de dominer et de posséder l'autre par la force ou de l'abaisser et de l'humilier. En mettant l'autre à la place qui a été la sienne, le sujet veut prendre une position active par rapport à ce qu'il a subi passivement auparavant. Dans cette boucle pulsionnelle où se jouent l'intrication et la désintrication, l'enjeu est la répétition même, répétition que jouent les protagonistes de la scène.
T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es vulgaire, irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi.
Écoute, pas ce soir.
Ah, Jean ! T'es fou !
La violence entre dans cette boucle. Les deux protagonistes se retrouvent chacun à leur tour dans la position de bourreau et de victime. Et paradoxalement, c'est le mouvement circulaire dans lequel ils sont pris qui parfois fait tenir ce couple destructeur. Il y a donc des façons d'aborder les violences en travaillant dans le cadre analytique sur la pulsion d'emprise, sur la destructivité. Mais il y a un autre angle parfois qui permet d'aborder cette question. Lorsque le sujet se sent indigne. « Je ne vaux rien », dit une patiente qui considère qu'elle ne vaut pas mieux que la situation qu'elle est en train de vivre. Il y a là une forme de mélancolie qui s'exprime. La mélancolie avec ses souffrances devient une disparition psychique du sujet. Elle conduit à son effacement, elle crée une désubjectivation. Certains psychanalystes la nomment « mort psychique ». La mélancolie se manifeste par une impossibilité de transformation, de métamorphose de soi. Chacun dans la violence est une proie. L'un la proie de l'autre la proie de son acte. Le penseur Elias Canetti écrit à ce sujet, au sujet de la mélancolie, je le cite, « La mélancolie commence quand les métamorphoses de fuite sont achevées et qu'on en éprouve l'inutilité. » Dans la mélancolie, on est la proie rattrapée et déjà saisie. On ne peut plus s'échapper. On ne se transforme plus. Tout ce qui a été essayé a été vain. On s'est résigné à son sort. On se voit proie. Cette résignation devient honte de soi, devient parfois haine de soi. On a pu entendre dire aussi sur les victimes de violences, selon ces diagnostics différents, qu'elles étaient mélancoliques, masochistes, passives, etc. Mais on ne peut les enfermer dans un discours psychopathologique qui a aussi comme effet de les condamner, de naturaliser ces comportements. On peut lire et entendre que chez les victimes, comme chez les auteurs de violences, ces violences produisent des mouvements psychiques qui ont des effets subjectifs, comme par exemple le déni, ou l'étrangeté, ou la honte, ou la culpabilité, ou l'ambivalence, ou la peur.
Tony, je t'aime, je veux cet enfant. Mais 24 heures sur 24 avec toi, je peux pas. On va vivre que les bons moments ensemble.
Tu pars quand ?
Il y a effectivement une série de paradoxes qui permettent parfois de comprendre cette violence. Je l'ai dit déjà, détruire l'autre pour le conserver, idéaliser l'objet tout en déchaînant sa cruauté contre lui lorsque cette idéalisation est menacée ou lorsqu'elle s'effondre. Aimer et haïr dans un mouvement simultané, se soumettre à une pulsion de domination. Toutes ces hypothèses donnent un sens à des scènes qui sont hors scène ou obscènes. Cependant, comme l'écrit le psychanalyste Jacques Hassoun, je le cite, la psychanalyse nous l'enseigne, les données de sens et d'évidence relèvent de l'imaginaire. Ce sont des scènes, des scénarios qui peuvent permettre une certaine articulation du symbolique et du réel. Mais lorsqu'elles sont fixées, figées, enquistées, fétichisées, elles constituent au contraire un obstacle à la symbolisation. La violence relève du réel, d'un impossible à nommer. S'il s'agit de tenter de comprendre les ressorts de cette impasse, Il s'agit aussi de ne pas tomber dans les pièges d'une production de sens incessante. Si la violence conjugale peut relever d'une psychopathologie, elle s'inscrit aussi dans un dispositif social. La psychologie individuelle est une psychologie sociale, nous dit Freud. Je le cite. Dans la vie psychique de l'individu pris isolément, l'autre intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire. Et de ce fait, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale. Et Freud précise, dans un autre texte, je le cite, « Il nous faut prendre garde de ne pas sous-estimer l'influence des organisations sociales qui acculent également la femme à des situations passives. Tout cela est encore loin d'être tiré au clair. La répression de son agressivité constitutionnellement prescrite et socialement imposée à la femme favorise le développement de fortes motions masochistes qui parviennent à lier érotiquement les tendances destructrices tournées vers le dedans. » D'une certaine manière, donc, et comme le fera plus tard Simone de Beauvoir, Freud insiste sur l'importance de prendre en considération les conditions sociales dans lesquelles tout individu se trouve. Et Freud précise, dans une conférence en 1936 sur la féminité et dans un contexte de mouvement d'émancipation des femmes, il nous faut prendre garde de ne pas sous-estimer l'influence des organisations sociales qui acculent également la femme à des situations passives. Le couple et la famille font partie de ces organisations sociales. C'est pourquoi lorsqu'une femme ou un homme parle de violences qu'ils peuvent subir, il serait trop rapide de ne chercher que des explications dans une des situations intimes, privées, propres aux deux personnes. On ne peut pas ne pas prendre en compte les aspects de la réalité matérielle. La famille est un dispositif construit socialement qui répond aux normes d'une époque. Noyau sécurisant et protecteur à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Occident, elle relève d'un discours normatif. Dans la présentation de son ouvrage intitulé « Le soi, le couple et la famille », le sociologue François de Saint-Gly fait ce constat, je le cite. « Oui, la famille a changé. Non seulement son cadre institutionnel a craqué, mais sa fonction centrale s'est également modifiée. Son rôle premier a longtemps été la transmission du patrimoine économique et moral d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, la famille tend à privilégier la construction de l'identité personnelle, aussi bien dans les relations conjugales que dans celles entre parents et enfants. » Le philosophe Michel Foucault fait cette analyse dans son ouvrage de 1976, « La volonté de savoir ». Je le cite. La famille est devenue depuis le XVIIe siècle, en Europe, un lieu obligatoire d'affect, de sentiment, d'amour. D'abord dispositif d'alliance qui permettait de gérer un patrimoine et de permettre une filiation, de transmettre une citoyenneté, Foucault montre comment, dans le contexte de l'émergence de ce qu'il appelle le biopolitique, le dispositif d'alliance devient un dispositif de sexualité. Je cite Michel Foucault. Les parents, les conjoints deviennent dans la famille les principaux agents d'un dispositif de sexualité qui à l'extérieur s'appuie sur les médecins, les pédagogues et plus tard sur les psychiatres et qui à l'intérieur vient doubler et bientôt psychologiser ou psychiatriser les rapports d'alliance. Apparaissent alors ces personnages nouveaux. La femme nerveuse, l'épouse frigide, la mère indifférente ou assiégée d'obsessions meurtrières, le mari impuissant, sadique, pervers, la fille hystérique ou neurasthénique, l'enfant précoce et déjà épuisé, le jeune homosexuel qui refuse le mariage ou néglige sa femme. La famille devient donc, comme le dit Michel Foucault, le lieu obligatoire d'affect, de sentiment, d'amour. Et cette obligation est une contrainte et un devoir persécuteur. Qu'est-ce qu'un lieu, en effet, qui ne donne place à personne, qui ne reconnaît la place d'aucun, où se joue une absence de reconnaissance et une lutte à mort des reconnaissances de place et des désirs ? Un lieu de contrainte et d'obligation. Dans cette proximité, il y a un dispositif de reproduction des normes de genre et de stéréotypes des rôles sexués. Le déclenchement des disputes, qui deviennent des conflits et qui peuvent dégénérer en violence, sont parfois issus de ces reproductions de normes et de fantasmes. Les fantasmes de virilité, de masculinité, de mère idéale ou d'épouse parfaite, les normes de tâches domestiques, d'éducation des enfants, d'indépendance et de dépendance économique, de valorisation et de dévalorisation du rôle social par le travail, etc. Ces dominations de genre peuvent être complexifiées par des logiques intersectionnelles en lien avec des statuts sociaux, des origines culturelles et ethniques. C'est pourquoi la violence, qui relève, comme je l'ai dit, d'un réel impossible, innommable, lorsqu'elle devient violence conjugale, est aussi à comprendre du côté des normes sociales. La famille et le couple, comme dispositif normatif, sont aussi des véhicules d'idéaux. Alors, comment créer les conditions de la transformation de la violence ? Comment le dénouement est-il possible ? La violence conjugale repose aussi en partie sur les conditions sociales de réception des discours sur la violence même. Un psychanalyste ne peut pas uniquement entendre ce qui relèverait des fantasmes d'une personne. Il convient aussi qu'il entende les conditions sociales dans lesquelles vit cette personne. Sans être un intervenant social, l'écoute analytique est aussi aux prises avec le social, avec les conditions matérielles de vie, avec ce que Freud nomme l'influence des organisations sociales. Que peut la psychanalyse ? Si le sujet est en mesure de s'approprier son histoire, de réécrire son symptôme et de l'inscrire dans son récit de vie, de produire une autre logique de l'amour et de la haine, sans doute pourrait-il émerger un déplacement subjectif. La question n'est pas seulement de produire une répression de l'acte, mais de créer les conditions d'une transformation subjective qui permette au sujet de passer à autre chose, de faire cesser la répétition. Dès 1915, dans son ouvrage actuel sur la guerre et la mort, Freud avait énoncé une formule fort utile dans le champ clinique du social. « Il s'agit, écrit-il, de travailler aux transformations érotico-sociales ». Les forces érotiques ne sont pas indépendantes de l'analyse des dispositifs sociaux dans lesquels elles peuvent s'exprimer. Psychologiser à outrance les raisons des violences conjugales fait courir le risque d'une dépolitisation de la question des discriminations de genre et donc des façons d'agir sur leur effet dans la réalité. L'analyse d'une réalité sociale et psychique, comme les violences conjugales, requiert aussi l'analyse des discours qui les rendent audibles et visibles. Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite voici Clara Isée, l'étoile sur France Inter.
Tu m'as promis qu'il y avait une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'offrir au vide, tu seras. Ravie, tu régneras sous les eaux cristales. Et moi, le cœur fidèle, si un jour perdu je t'appelle, tu me protégeras. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'offrir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles, tu seras.
Thank you. sera toujours ma reine, mon chant de sirène, le sang dans mes veines. Et si la tristesse t'entraîne et que tu quittes la reine, je serai diluvienne.
Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'offrir un vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'offrir un vide, tu seras.
Sur France Inter, dans l'inconscient, c'est à vous maintenant, je vous écoute.
Père, moi je pose une question suite à ce que j'ai écouté sur les violences conjugales. Je voudrais savoir ce qui se passe quand il y a ce type de violence, et non pas entre conjoints, mais entre frères, sœurs, etc., suite à la mort des parents. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez traiter ce thème un jour ou voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Claire pour votre question et votre suggestion. Je note parce que je crois que c'est effectivement une très bonne idée d'aborder la question de la fratrie. Alors effectivement, je peux m'apercevoir de temps en temps dans certaines séances que des patients peuvent parler de ce qui se passe après la mort des parents, notamment lorsqu'il s'agit d'héritage ou de succession. Il y a, c'est pas toujours le cas, mais il y a parfois des situations d'une grande violence suite à la disparition des parents. D'ailleurs, il y a, je pense que c'est Jacques Lacan qui parlait de la frérocité. De la frérocité, c'est un jeu de mots qu'il emploie pour évoquer la question de la férocité entre les frères et sœurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un thème très intéressant, notamment concernant la question de la jalousie, de l'envie, de la rivalité entre les frères et sœurs dans une fratrie. Donc je l'aborderai peut-être un jour. Merci beaucoup Claire.
J'ai trouvé cet épisode très intéressant et notamment tout ce qui concerne vraiment la question du couple et au-delà de l'aspect des violences en fait et en quoi c'est... un système, un dispositif, mais voilà, aussi un système avec ses propres règles, et notamment avec toute la question des couples dysfonctionnels et comment deux personnes qui interagissent tout à fait normalement dans la vie réunies sous le même toit, parfois ça peut donner quelque chose de catastrophique. Et pourquoi justement cette question est très peu abordée dans la théorie analytique? Parce qu'on parle finalement beaucoup du rôle de la mère avec l'enfant, un peu du rôle du père avec l'enfant, mais finalement très peu du rôle du couple face à l'enfant et de l'économie en fait de ce couple sur le rôle de ça sur la construction psychique de l'enfant. Et même je repensais à Œdipe et en fait Œdipe c'est pas un enfant avec sa mère et un enfant avec son père, c'est un enfant face à un couple. Et voilà. Et du coup je me demandais pourquoi c'était jamais abordé.
Merci beaucoup Justine pour votre question. En fait, ce dont vous parlez, me semble-t-il, c'est aussi la question de la famille. C'est-à-dire que quand vous dites que effectivement Œdipe c'est un enfant avec sa mère et un enfant avec son père, la mère et le père avec Œdipe constituent précisément la question de la famille. Ce que Freud a abordé essentiellement, c'est précisément le fait que au sein de ce dispositif ou de ce système qu'est la famille, il y a ce qu'il appelle le complexe œdipien, c'est-à-dire qu'il y a des vœux de meurtre, il y a des désirs qui circulent. Donc là, on est bien au cœur de ce dispositif de la famille, dont Freud d'ailleurs dit que c'est un dispositif qui amène beaucoup de violence. Quand il dit l'essence de la famille est celle d'être un meurtre, je pense qu'il pense véritablement, enfin en tout cas qu'il conçoit justement le dispositif familial. Alors, en ce qui concerne la bibliographie, si je puis dire, vous avez des ouvrages d'un psychanalyste qui s'appelle De Neuter, qui a beaucoup travaillé sur la question du couple, donc qui peuvent peut-être vous intéresser. Merci beaucoup.
Bonjour, c'est une question pour Laurie Loffer. Vous avez dit que la violence relève du réel et les données de sens relèvent de l'imaginaire, mais qu'il ne faut pas tomber dans les pièges d'une production de sens incessante. Ça m'aiderait beaucoup si vous développiez un petit peu cette affirmation. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos émissions, au revoir.
Merci beaucoup Valérie pour votre question. En fait, quand je dis que les données de sens relèvent de l'imaginaire, et quand je dis ça d'ailleurs, l'imaginaire, ça n'est pas péjoratif, c'est très important. En fait, quand on a vécu quelque chose et qu'on veut expliquer ce qu'on a vécu, eh bien, on reconstruit toujours un peu une histoire. Ce qui veut dire que donner du sens à une histoire passée relève aussi d'une sorte de fictionnalité de cette histoire. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que cette histoire n'a pas existé. Mais ça veut dire que le fait de la reconstruire relève un peu de ce qu'on imagine de ce qui s'est passé. Donner du sens, ça permet parfois, pas toujours, mais parfois, de border un petit peu l'angoisse, de faire baisser un petit peu l'angoisse, parce qu'on s'explique des choses. Mais il arrive que lorsque on ne cesse de vouloir expliquer ou trouver des causalités ou expliquer encore, eh bien, d'une certaine façon, on reste toujours fixé à l'histoire que l'on veut expliquer sans cesse.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jeanne. Eh bien, de ma compréhension du podcast, lorsqu'on fait une mauvaise rencontre avec le réel, on va tenter de traiter ça par des récits, des scénarios pouvant mettre en place un nouage entre le symbolique, l'imaginaire et le réel qui tient la route, si je puis dire. Et pourtant, vous dites qu'il ne faut pas tomber dans les pièges d'une production incessante de sens. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous m'éclairiez à propos de ce point-là. Quand est-ce que c'est trop ? Parce que la manière dont j'imagine une cure analytique, c'est justement cette recherche incessante de sens jusqu'à en trouver la bonne qui nous permette de maintenir un équilibre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jeanne, pour votre question. Alors, vous insistez, et vous avez raison, sur le fait qu'il peut y avoir une production incessante de sens. C'est-à-dire que le patient ne cesse pas d'essayer de trouver un sens à ce qui le fait souffrir. Le problème, c'est précisément ce caractère incessant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet, à un moment donné, de faire passer à autre chose le sujet qui souffre d'une histoire, c'est-à-dire comment trouver, comme vous dites, trouver le bon moment ou la bonne explication qui permettrait de passer à autre chose. C'est toute la question. Et justement, passer à autre chose, ça veut dire d'une certaine façon lâcher à un moment donné cette explication ou cette nécessité d'expliquer sans cesse une histoire. C'est-à-dire passer à autre chose, d'une certaine façon, c'est se séparer aussi de ces scénarios et de ces récits. Dans l'inconscient, nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions après Cigarettes, After Sex, Terra Nu Blu sur France Inter.
Okay.
et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour, merci pour cet épisode très intéressant proposé par Laurie Loffer. Ma question porte sur la position de l'analyste qui reçoit la parole d'une personne violentée ou qui violente. Très concrètement, comment on cherche l'équilibre entre le besoin de laisser assez de place à la parole pour se dérouler et l'éventuelle nécessité d'intervenir pour inciter, par exemple, une victime à se protéger? La question se pose aussi pour l'écoute de quelqu'un de violent qui vous raconterait, par exemple, après séance, qu'il agresse physiquement sa compagne. Comment on écoute et est-ce qu'on répond?
Merci beaucoup, Gaïa, pour votre question très intéressante qui renvoie à la notion de neutralité ou à la notion d'abstention de l'analyste. C'est très intéressant puisque c'est précisément le sujet de l'épisode prochain. Donc, merci pour cette question. C'est une question technique du métier de psychanalyste. Vous avez raison de l'évoquer, car il s'agit à la fois de créer les conditions pour que la personne entende ce qu'elle dit elle-même. Donc, si l'analyste, à un moment donné, le psychanalyste en dit trop à la place de cette parole, il est possible que le patient n'entende pas lui-même ce qui est en train de se jouer ou en train de se dire. Freud considérait qu'il ne peut pas y avoir l'or pur de l'analyse et qu'il fallait y mettre un peu de cuivre, comme il disait. C'est-à-dire que parfois, le psychanalyste peut suggérer quelque chose. Suggérer, c'est-à-dire ajouter, dire quelque chose. Il est des situations, vous avez raison, où il est parfois très difficile de garder une certaine neutralité. C'est pourquoi Freud disait que, dans certaines situations, la psychanalyse était un métier impossible.
Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais poser une question à Laurie Loffer suite à son podcast sur les violences conjugales. Alors, cette réflexion sur les violences conjugales m'a fait penser à la passion. Et en fait, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on fait quand on cède, quand on se laisse aller à une passion qui, dès le début, ne va nulle part, n'ira nulle part, dont on sait que l'issue sera souffrante.
Merci Marie pour votre question. Freud a écrit un texte qui s'intitule « Psychopathologie de la vie amoureuse ». Alors c'est très intéressant comme texte parce que Freud considère que aimer est une forme de maladie. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'une certaine façon, parce que ça modifie tout de suite l'économie psychique de celui qui aime et peut-être aussi de celle et celui qui sont aimés. La passion, c'est une espèce d'intensité de cette psychopathologie qui parfois fait que le sujet absorbe, est dans une espèce de fusion avec l'autre, au point où sujet et objet n'existent plus. C'est-à-dire que c'était Woody Allen qui disait « Aimer passionnément, c'est ne faire qu'un, mais pourvu que ce soit moi ».
Bonjour, je suis Maude. Ma question, mon questionnement par rapport à l'analyse s'articule autour de la notion de social, justement, puisque vous disiez dans l'émission sur les violences conjugales que la violence conjugale implique aussi une dimension politique, sociale, etc. En fait, ce que je voudrais pointer, c'est savoir dans quelle mesure on peut considérer que le psychanalyste ou la psychanalyste est complice des violences, parce que pour ma part, je me suis fait la réflexion que certes mon analyse m'avait servi à rester en vie tout au long d'une relation toxique qui a duré au moins 8 ans, dans laquelle je restais entre autres pour ne pas priver les enfants de leur père. En fait, j'étais en analyse déjà avant et je l'ai interrompue parce que la personne avec qui j'étais a beaucoup dénigré ce dispositif et ça fait écho à des interrogations personnelles. Donc voilà, j'ai eu la faiblesse de l'interrompre. Puis j'y suis revenue pour m'interroger sur mon rôle dans cette relation puisque je culpabilise facilement, je me remets facilement en question. Mais après la relation toxique. Je culpabilisais encore d'en être partie et je voulais y revenir. Et là, mon psychanalyste est intervenu en me disant « Vous étiez au bord de la mort psychique, vous avez pris la bonne décision, maintenant il faut avancer et certainement pas la remettre en question. » Et je me demande pourquoi il n'est pas intervenu plus tôt au final, parce que je pense que je ne serais pas restée aussi longtemps dans la relation si je n'avais pas eu ce soutien ponctuel, voire sporadique de mon analyste. C'est-à-dire que je pense que ce serait allé plus loin, plus vite. Peut-être que j'aurais eu une prise de conscience plus tôt. Donc, ça m'interroge beaucoup et je pense aussi à la honte, effectivement, qu'on ressent quand on est dans ces cercles vicieux-là. On croit aussi qu'on est seul à vivre ça. Or, aujourd'hui, après MeToo, après toutes les dénonciations, après toute la médiatisation autour des violences conjugales et des rapports de domination, il apparaît que c'est un phénomène très répandu et lié à l'éducation, l'éducation de genre, etc. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que finalement le dispositif de l'analyse ne va pas renforcer toutes ces pressions-là? Je trouve que historiquement, la question vaut d'être posée. Merci.
Merci Maud pour votre témoignage important. Alors, ce que vous dites là, ça renvoie au fait que parfois une analyse fait partie du symptôme à partir duquel on rencontre une souffrance. Je ne sais pas si on peut dire que la psychanalyse est complice des violences qu'un sujet peut vivre. Je crois que ce sont des moments difficiles à entendre pour l'analyste et difficiles à dire pour le patient, ces moments de violence, et que toute la question, me semble-t-il, est quel est le bon moment pour la personne qui souffre de ces violences de s'autoriser à agir sur sa réalité. Parfois, il y a des mots qu'un analyste peut dire que le patient n'entend pas, ou n'entend pas tout de suite, ou entend différemment. Il y a parfois des mots qu'on attendrait que l'analyste dise, qu'il ne dit pas. Il y a des mots ou des phrases que le patient est en mesure d'entendre de son analyste à un moment donné et qui lui permettent d'agir. Et des phrases ou des mots que le psychanalyste peut dire, mais que le patient n'est pas en mesure d'entendre. Donc, il est vrai que ce que vous dites est important, c'est quel est le bon moment pour entendre une certaine parole d'un analyste? C'est ce que les Grecs appellent le kairos, quoi, le bon moment, la bonne occasion. Parfois, l'analyste dit les choses de façon un peu brutale ou sans tact, ce qui fait que on ne peut pas l'entendre, le sujet ne peut pas l'entendre. Et parfois, il est dans un silence qui fait encore souffrir le patient. Donc tout ça relève de la technique même du métier de psychanalyste. Merci pour vos questions et merci à Romain Leborgne à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Le Guil. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr, et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 2 juin pour mon prochain épisode.